Bienvenue sur Innover dans le monde de l'art, le podcast dédié aux personnalités qui construisent le monde de l'art de demain. À travers ces épisodes, je vous permets de décrypter les coulisses de ce secteur pour pouvoir mieux l'aborder et, si vous le souhaitez, vous y aventurer à votre tour. Je suis Lise, hôte de ce podcast et cofondatrice des Art Dating, des accompagnements personnalisés, des formations et des événements qui permettent aux artistes de mieux valoriser leur démarche, de déployer leur potentiel et d'élargir leur réseau. Vous pouvez retrouver le podcast et les Art Dating sur Instagram. Aujourd'hui, je reçois Margot Bossard, restauratrice d'œuvres d'art spécialisée dans les œuvres contemporaines. Une spécialité peu commune dans ce domaine et vous le verrez, pleine de défis. Margot nous emmène en immersion, du moins en parole, dans son métier, que ce soit à l'atelier ou en dehors. Nous avons aussi échangé sur tout l'aspect éthique qui encadre son activité et vous verrez, elle nous offre même généreusement quelques conseils préventifs. J'ai adoré l'écouter parler de son métier unique et de la manière dont elle l'aborde. J'espère alors que cet épisode mettra un petit peu de lumière sur ce métier de l'ombre du milieu de l'art. Bonne écoute! Bonjour Margot, comment vas-tu?
Bonjour Lise, ça va très bien et toi?
Eh bien ça va très bien, merci beaucoup d'être là. Donc Margot, tu es restauratrice d'œuvres d'art et tu as choisi une spécialité qui n'est pas n'importe laquelle puisque tu as décidé de te consacrer à la restauration d'œuvres d'art contemporaines. Alors, ça peut paraître un peu classique, hein, parce que quand on est historien ou historienne de l'art, beaucoup de personnes se spécialisent dans l'art contemporain. Mais dans le cadre de la restauration d'œuvres d'art, tu nous en diras un petit peu plus, c'est pas une spécialisation qui est si commune. Mais dans un premier temps, ce que je vais te demander, c'est de me raconter comment s'est faite, toi, ta rencontre avec le milieu de l'art de manière générale.
Bah, tout d'abord, merci, Lise, de m'accueillir dans ton podcast. C'est assez touchant pour moi puisque en fait on a commencé nos projets respectifs au même moment et puis je constate en étant ton invité que tout se passe pour le mieux pour toi tout comme moi, donc je t'en remercie spécialement. Alors je l'ai su depuis que j'étais toute petite, en tout cas j'ai toujours voulu faire le métier de restaurateur depuis que je suis toute petite en ayant vu un reportage à la télévision. Mais avant ça, je ne sais pas si ma carrière, disons, trouve sa source ici, mais je dirais que mon premier contact avec l'art qui m'a fait pressentir que j'allais aimer ça, je crois que c'est avec une œuvre de Jean-Baptiste Corot, « Souvenir de Morte Fontaine ». Qui est un tout petit tableau exposé, je crois, au Louvre. Et chez ma grand-mère, dans la salle à manger, il y avait une représentation de cette œuvre monumentale en tapisserie. Dans mes souvenirs, ça paraissait vraiment gigantesque puisque j'étais petite. Et puis, cette œuvre était dans la salle à manger, et à chaque repas de famille, j'étais face à elle, et je m'amusais toujours à me perdre dans la représentation, et à m'imaginer être vraiment au cœur de l'œuvre et au cœur de ce qu'elle représentait, à savoir, je crois que c'est un paysage, et il y a, dans mes souvenirs, ce sont des jeunes filles qui cueillent des fruits au bord d'un lac. Alors, je m'imaginais que j'allais me balader en forêt près du lac et que j'allais cueillir avec ces mêmes petites filles des fruits dans les bois. Oui, c'est vrai que j'en ai un souvenir assez particulier et nostalgique. Je dirais pas que tout naît de là, mais en tout cas, ça m'a laissé un souvenir très fort.
Donc, tu as cet amour de l'art qui naît assez jeune, finalement. Mais quand tu es restauratrice d'œuvres d'art, il faut aussi être très habile techniquement parlant. Est-ce que tu avais un amour du dessin, un amour de la créativité, par exemple?
Quand j'étais très petite, oui. Et en fait, au fil des années, plus j'ai grandi, je dirais qu'à partir de l'adolescence, je commençais à... plus aimé ça, mais enfin, du coup, je me suis rendu compte que j'avais pas assez d'imagination pour pouvoir me plaire dans la création, pouvoir dessiner, peindre, etc. En fin de compte, j'aimais beaucoup les travaux manuels, où il fallait être habile, mais tout ce qui suscitait l'imagination et la créativité au fur et à mesure, c'était devenu compliqué, d'autant plus que en parallèle du lycée, je faisais des cours d'art appliqué dans une école, vraiment à titre de loisir. Et puis, j'ai remarqué qu'en fait, cette frustration, elle naissait de plus en plus et que j'avais moins de goût à y aller parce que j'avais cette pression de, il faut que j'arrive à avoir de l'imagination pour faire quelque chose.
Tu vas en école donc de restauration d'œuvres d'art, donc tu fais directement ça après ton bac.
Oui, j'ai des histoires de l'art. Comme je te le disais, depuis que je suis toute petite, j'avais envie de faire ça. Après, c'est vrai qu'en grandissant, j'avais d'autres ambitions et idées. Parfois, quelquefois aussi un peu farfelues. Mais au final, à partir du lycée, et plus précisément à partir de la terminale, mon choix a été fait et je savais que je voulais restaurer des œuvres d'art. Mais la difficulté étant que c'est vraiment une filière de niche. Et donc, oui, donc je me suis décidée à être restauratrice d'œuvres d'art quand j'étais en terminale. Mais d'une part, donc l'école que j'avais repérée, qui est l'école Condé, était située à Paris. Je suis originaire du nord de la France. Et donc, déjà d'une part, à 17 ans, à l'obtention de mon bac, me voir vivre à Paris, c'était pas une idée qui me rassurait. Je me sentais pas mature pour ça. Et puis d'une autre part, en fait, je me trouvais pas légitime de commencer ce cursus en y connaissant presque rien en histoire de l'art. Pour moi, c'était logique de d'abord étudier les œuvres d'art et ensuite pouvoir aspirer à les conserver et les restaurer. Il faut forcément connaître l'œuvre et son histoire pour pouvoir agir sur elle et bien agir sur elle.
C'est un métier qui se pratique beaucoup en indépendant.
Alors, il y a deux cas de figure. Il y a les restaurateurs qui travaillent pour les institutions publiques, donc les musées. Et après, il y a toute une autre partie, effectivement, qui travaille de manière indépendante et surtout pour une clientèle privée. Privée, donc deux professionnels, des galeries, des marchands, des maisons de vente, etc. Et puis, une autre partie avec plutôt des collectionneurs et amateurs d'art.
Et toi, en plus, en tant qu'indépendante, j'ai l'impression que tu es dans chaque maillon de la chaîne. Tu n'es pas juste exécutant, tu es aussi, tu as la partie un peu R&D, même si tu essayes de pas trop y donner de place, la partie commerciale aussi. Donc, c'était un choix pour toi d'exercer en indépendante pour ça. Oui, ça s'est fait naturellement.
C'est pas un choix. Ben, puisque être embauchée dans un atelier en France, c'est pas possible. C'est pas possible puisque généralement c'est du salariat déguisé. En fin de compte, tu travailles à ton compte, mais pour le compte d'un atelier, ce qui n'est vraiment pas intéressant. Et puis, il y a aussi le fait de tous les ateliers que je peux connaître ici à Paris, il n'y en a pas un dans lequel je peux me retrouver et être heureuse dans la manière d'appréhender les œuvres ou de les restaurer.
Qu'est-ce qui te rend heureuse dans la manière d'appréhender et de restaurer les œuvres?
Je sais ce que j'aime pas, ça c'est sûr, mais en fait je pense que j'aime bien et j'apprécie surtout prendre le temps d'observer l'œuvre, de l'avoir pour soi et puis de scruter des moindres détails.
Mais il y a très peu d'ateliers qui embauchent ou qui recrutent des personnes. Et en plus, j'imagine, en particulier dans l'art contemporain, parce qu'on ne l'a peut-être pas assez souligné, mais c'est quand même une spécialisation qui est très rare, en France en tout cas. Vous êtes assez peu à le faire, non ?
Oui, donc il y a d'autres restaurateurs qui se disent spécialisés en art contemporain, mais qui pour autant, en parallèle, travaillent aussi sur des œuvres anciennes. Et donc, après, c'est une conviction qui m'est propre. C'est le principe d'une conviction. Mais pour moi, on peut pas jongler de l'un à l'autre. Si on fait ça, au bout d'un moment, il y aura forcément une erreur d'interprétation ou un geste qui sera maladroit et ça peut être dangereux. J'aime pas beaucoup dire ça par superstition, je pense, mais je pense que je suis en tout cas l'une des rares à consacrer mon travail de conservation et restauration uniquement aux œuvres d'art contemporain. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que c'est important de le dire. Pour moi, l'art contemporain, c'est les œuvres à partir de l'après-guerre.
Et tu disais que c'était très niche. Et donc, est-ce qu'en conséquence, c'est très difficile de rentrer dans une école de restauration d'œuvres d'art ? Sur quels critères on te sélectionne ?
Alors, les critères sont très différents d'une école à une autre. L'école Condé est une école privée. Et en parallèle, à Paris, il y a deux autres écoles publiques. Il y a une formation à la Sorbonne et une autre l'Institut national du patrimoine. Pour entrer dans ces écoles, surtout l'INP, c'est sur concours, c'est un programme qui est extrêmement compliqué. Et généralement, ceux qui passent le concours se sont préparés, par exemple, en faisant l'école que j'ai faite, soit en 3 ans, voire même en 5 ans. Pour pouvoir juste uniquement passer le concours, sans forcément aussi être pris. Et pendant ce concours, c'est des épreuves de copie, de dessin, mais quand même à des niveaux poussés. Il y a aussi des questions scientifiques. On demande également de faire un constat d'une œuvre, de proposer un traitement. Donc, en fait, c'est des choses vraiment déjà précises que l'on apprend normalement à l'école, qui sont déjà demandées en amont. À l'école Pondier, l'admission se fait sur entretien. Alors avant, il y a un petit test de culture générale quand même à faire. Et après, donc, c'est sur entretien, des motivations, d'écrire ses aptitudes. Il faut aussi quand même montrer un book. Mais c'est pas, s'il n'y en a pas, c'est pas quelque chose qui est éliminatoire. Mmh. Et je dirais qu'en fait, l'écrémage se fait petit à petit dès la première année. Première année, on est vraiment beaucoup. Moi, en 2016, quand j'étais en première année, je crois qu'on était 30 ou 40. Là, je crois qu'actuellement, c'est des classes de plus de 60, 75 personnes. Et par exemple, à la fin de mon cursus, dans ma spécialité, on était plus de 7. Donc, l'écrémage se fait dès la première année. Puisque c'est énormément de travail, c'est beaucoup de connaissances à acquérir dans plusieurs domaines très différents, les sciences, l'histoire de l'art, les sciences des matériaux, le dessin, la copie. Il y a aussi un peu la première année de création artistique. Et souvent, les élèves se rendent compte d'eux-mêmes que c'est pas fait pour eux. Ou bien on leur fait savoir qu'ils ont de trop grosses lacunes dans un domaine et donc on les réoriente vers une filière qui est mieux pour eux.
C'est quand même très complet. Il n'y a pas beaucoup de formations qui ont à la fois ce côté intellectuel et en même temps le côté pratique. Enfin, c'est, c'est fascinant, ça donne vraiment envie de voir comment ça se passe de l'intérieur. Et ma question venait de là, parce que des fois, il y a des choses où on se dit on peut toujours apprendre en étant formé, mais quand on voit comment sont faites les sélections, en particulier à l'INP, on voit que quand même, les personnes attendent un certain talent déjà présent. Est-ce que toi, tu penses que tout le monde, avec de l'entraînement, peut réussir à faire ça, comme dans d'autres métiers? Ou bien il faut quand même avoir une certaine aptitude au préalable? Est-ce que tu as rencontré, par exemple, des profils de personnes qui n'étaient pas forcément excellentes en dessin, qui ont eu les entretiens dans ton école et qui se sont avérées avoir une progression assez impressionnante au fur et à mesure?
J'en suis l'exemple même. Je suis à un niveau catastrophique en dessin, parce que j'aime pas ça. Je sais que c'est surprenant de dire ça et c'est peut-être pas rassurant, mais j'ai horreur, pendant mes études, j'avais horreur du dessin et de la copie. Et pour ma part, quand j'aime pas quelque chose, je n'y arrive pas. J'ai beau m'efforcer, je n'y arrivais pas. Et donc, j'étais très nulle là-dedans, mais je compensais beaucoup en étant, par exemple, en ayant beaucoup de connaissances en histoire de l'art, ou en ayant une bonne technicité dans mes travaux pratiques de restauration, ou bien encore avoir une bonne logique dans les sciences des matériaux. Donc, rien n'est perdu, mais je pense qu'il y a quand même des matières et des qualités qui sont essentielles, comme par exemple le fait justement de ne pas avoir d'imagination et de créativité, parce que ça, c'est même dangereux quand on est restaurateur, puisque quand on a vraiment cette aptitude qui est très développée, on a peut-être tendance à réinterpréter une œuvre, ce qui est absolument pas possible.
Quand tu parles des dérives comme ça, ça me fait penser un peu comme dans certaines professions, il y a une certaine éthique. Tu vois, dans la médecine, ça va être le serment d'Hippocrate, par exemple. En restauration d'œuvres d'art, vous avez des valeurs vraiment qu'on vous inculque de façon très transparente, comme ça.
Il y a un code déontologique aussi.
Oui, un code déontologique, c'est ça.
Conservateur-restaurateur. Mais c'est intéressant que tu poses cette question, parce qu'en fait, ce code déontologique, il n'est pas forcément adapté dans les cas de la conservation et restauration des œuvres d'art contemporaines.
Ah, d'accord.
Puisque ça fait appel à des valeurs qui ne sont pas vraiment applicables aux œuvres d'art contemporaines. J'ai plus le texte sous les yeux, mais j'avais étudié ça aussi, tu me parles dans mon mémoire. Mais il y a vraiment des incohérences. Moi, je suis très honnête. Je ne dis pas que j'adhère à ce code éthique, parce que je ne peux pas. Mais pour certains points, mais globalement, oui, il y a des choses à respecter et à suivre.
C'était parti dans l'optique de restaurer des œuvres d'art plus ou moins anciennes. Qu'est-ce qui t'a fait switcher d'opinion?
Pour rester poli, ça m'a progressivement profondément ennuyée, puisque en fait, ce sont des analyses et des gestes qui sont très rébarbatifs. Une peinture arrive, la dépoussière, la nettoie, on dévernit, s'il y a quelque chose à faire, on support, on tape au support, on pose un plastique, on revernit, on retouche, c'est quasiment toujours la même chose, sauf des cas exceptionnels où il y a un travail autre à faire et différent, mais sinon c'est toujours la même chose. Et c'est un aspect qui, moi, m'a presque à un moment dégoûté du métier. Et puis je me suis beaucoup remise en question à ce moment-là, d'autant plus qu'au même moment, quand je commençais aussi à m'intéresser à la restauration de l'art contemporain, j'ai fait aussi quelques stages, des ateliers sur papier spécialisés en l'art contemporain. Mais en fait, quand j'y étais, je me rendais compte que, un, ce n'était pas le cas, et de deux, le traitement des œuvres n'était pas optimal. Et donc, j'ai eu cette remise en question. De par le fait Est-ce que j'ai envie dans ma vie de toujours voir les mêmes choses et de faire toujours la même chose? Et d'un autre, est-ce que il est possible de restaurer la contemporaine comme j'ai envie de.
Est-ce qu'il y a un côté presque répétitif dans la manière de restaurer les œuvres d'art plus anciennes, parce qu'on connaît très bien les matériaux, la manière de faire. Toi, tu avais besoin d'un petit peu de challenge aussi, de nouveauté. C'est pas la voie de la facilité, mais au final, ça te stimule beaucoup plus.
Oui, ça me stimule plus, ça me stresse plus aussi, puisque quelquefois, quand on me présente une œuvre, j'essaye de faire ressentir, d'avoir énormément confiance à moi et de dire oui, bien sûr, on va faire quelque chose, c'est possible. Je ne dis pas que ça va être fait, que c'est faisable, ça va être fait. Je dis oui, c'est possible, ça fait très plaisir. Et puis, l'instant d'après, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vais jamais y arriver, mais c'est impossible. Comment est-ce que je vais faire? Et il se passe du temps. Beaucoup de temps, et puis au final, je m'y mets, et puis progressivement, je vois que c'était pas assez compliqué que ça. Donc, si je voulais en faire, je le ferais. Mais à chaque fois, c'est toujours comme ça, il y a toujours ce moment où je me dis, mais Margot, pourquoi il faut toujours que tu fasses, que tu en fasses toujours à ta tête, que tu passes toujours autrement, et que tu te trouves dans des situations comme ça qui sont pas possible et tu sais même pas si tu vas t'en sortir.
En plus, tu es un petit peu seule dans ton problème vu que vous n'êtes pas beaucoup à faire ce que tu fais. Tu peux pas trop appeler une collègue.
Je peux toujours demander conseil à d'autres restaurateurs. De toute façon, toute ta vie est pour apprendre. J'ai gardé aussi contact avec un atelier chez qui j'avais fait un stage de salle qui m'avait énormément plu.
Vous êtes très peu nombreux à restaurer l'art contemporain, mais est-ce que c'est pour des raisons structurelles aussi, dans la manière dont vous êtes formés ou...
C'est vrai que quand on veut faire ce métier, en tout cas pour ma part, moi, quand j'ai voulu faire ce métier, c'était pour toucher des œuvres d'art anciennes. C'était pas pour restaurer une peinture qui a été peinte la veille. Et donc je pense qu'il y a aussi ce souci peut-être de légitimité aussi. De se dire, oui, mais enfin, contre restaurer l'art contemporain, c'est peut-être pas de la restauration, c'est peut-être pas utile, c'est peut-être pas non plus flatteur, alors que c'est absolument passionnant.
Donc, on va venir petit à petit au sujet de la restauration d'œuvres d'art contemporaines, parce que tu as commencé à nous le dire, il y a vraiment des spécificités. Déjà, on peut avoir ce biais de se dire, il n'y a que les œuvres anciennes qui s'abîment avec le temps et donc qui ont besoin de restauration. Éventuellement, on peut s'imaginer qu'une œuvre d'art contemporaine a besoin d'être restaurée parce qu'elle a été cassée, abîmée. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons, en dehors de la casse accidentelle, qui font qu'une œuvre d'art contemporaine aurait besoin d'être restaurée?
Mais il y a le temps aussi, mine de rien. Il y a des matériaux qui peuvent se fragiliser et se détériorer très rapidement. Donc, il y a, comme tu le dis, des accidents, que ce soit dans le lieu où exposé ou conservé l'œuvre. Aussi des accidents durant les transports, ce qui arrive très souvent, d'autant plus que le marché de l'art contemporain est un marché extrêmement prolifique, où une œuvre peut être vendue aujourd'hui aux États-Unis, elle va partir dans 72 heures. Quand elle part dans 72 heures, il faut qu'elle soit en excellent état. On ne sait pas dans quel état elle va arriver là-bas. Et puis peut-être qu'une fois arrivée chez le collectionneur, ça ne lui plaira plus. Et puis il va décider de la vendre, d'en acheter une autre. Et trois semaines après, elle va se retrouver encore au bout du monde. Et ça, c'est le lot de beaucoup, beaucoup d'œuvres d'art. Il y a aussi des problématiques liées au déconservation de l'œuvre, le vandalisme. Il y a beaucoup de causes de détérioration.
Et c'est lié aussi aux matériaux de l'art contemporain qui sont différents. Je le sais parce qu'on s'en était parlé en off. On n'allait pas imaginer que j'ai des connaissances hyper poussées et abouties. Mais tu m'expliquais en off quand on s'était rencontrés, quand on avait discuté avant de faire le podcast, que par exemple les pigments de la peinture n'étaient pas les mêmes que dans les œuvres anciennes et que parfois donc les œuvres contemporaines pouvaient se détériorer beaucoup plus vite.
Oui, il y a les pigments, il y a les liens, il y a aussi les nouveaux médiums. Par exemple, alors, il y a deux cas de figure. Soit, oui, effectivement, ça peut se détériorer plus vite, soit ça peut aussi se détériorer plus facilement et dans d'autres conditions qui sont plus accessibles que les conditions de détérioration que les œuvres anciennes traditionnelles. Par exemple, le cas des peintures acryliques, qui est quand même assez très commun dans la production artistique depuis les années 60. Il y a vraiment des contraintes de température à respecter, puisque techniquement, la température de transition vitreuse de la peinture acrylique est de 25 degrés. Ça veut dire qu'à cette température, les composants du matériau vont être modifiés. Et donc, ça va modifier les caractéristiques de la peinture et a tendance à se ramollir, ce qui peut causer des soucis de déformation ou bien des soucis d'encrassement, puisqu'elle peut plus facilement s'immiscer sur la peinture et rester incrustée. Il y a également le cas de la peinture à l'huile, qui est un médium qui a été utilisé pas de tout temps, mais dès le 15e siècle. Mais pour autant, les peintures actuelles déjà ne sont peintures à l'huile actuelles déjà ne sont pas les mêmes, et en plus de ça, une peinture à l'huile qui a moins de 100 ans n'aura pas non plus les mêmes caractéristiques physico-chimiques qu'une peinture qui est plus ancienne que ça. Donc là aussi, ça peut poser des soucis de conservation et après, aussi des soucis d'intervention sur l'œuvre. Et puis après, il y a l'usage de matériaux et d'objets qui ne sont pas initialement conformes à la production artistique. Et en plus, ça peut être des objets périssables. Il y a aussi des assemblages, soit de peintures, soit de matériaux qui sont contradictoires et qui peuvent de même altérer l'œuvre. Par exemple, actuellement, je travaille sur une œuvre de Louise Arnal, qui sera d'ailleurs prochainement exposée en Suisse, où le souci pour une partie de ses œuvres, la partie de ses œuvres qui ont été conçues, alors ce sont des peintures acryliques sur toile, montées sur châssis, et sur ces peintures, il y a des sortes de tasseaux. J'ai pas su cerner le matériau précisément. Ça ressemble à du carton, mais en même temps, c'est assez plastifié. Donc, ce matériau est découpé, peint et coupé et collé sur la toile. Et en fin de compte, c'est un matériau qui est beaucoup trop solide par rapport à la toile. Et donc, en fin de compte, les variations. Les variations de tension de la toile vont faire que ces morceaux de ces tasseaux vont se décoller. Et encore, ça va, dans ce cas-là, ça se décolle, mais ça peut engendrer aussi carrément la rupture de la toile.
Quand tu parlais de la peinture acrylique, alors oui, beaucoup d'artistes utilisent la peinture acrylique. Et c'est vrai que tout ce que tu dis à ce sujet amène à se poser la question du choix des matériaux quand on est artiste et puis quand on est collectionneur d'art, de bien faire attention aussi à pas seulement à l'esthétique de l'œuvre, mais à quels matériaux ont été utilisés. Ça, je pense que tout le monde n'y fait pas très attention, surtout si on débute. Donc, toi, est-ce que tu aurais des conseils, par exemple, à destination des artistes pour faire des œuvres, par exemple, qui soient durables, mais toujours avec peut-être un budget pas trop exponentiel, parce que c'est très bien quand on commence, on n'a pas un énorme budget pour ces matières premières.
Par provocation, j'irais de ne pas faire attention. Parce que pour moi, un artiste ne doit pas se limiter. Il doit vraiment profiter de la créativité et de l'imagination qu'il a pour faire ce qu'il a envie de faire et donc d'utiliser les matériaux qu'il souhaite, de les assembler comme il souhaite. Que bah, après, par la suite, ça sera le problème de restaurateurs comme moi. Mais après, si vraiment c'est le but de l'artiste de créer une œuvre qui soit, on va dire, immortelle, je lui conseillerais de faire comme les peintres flamands du XVe siècle, de retourner à la technique de la peinture à l'huile et de savoir l'exécuter brillamment, puisque avec énormément de siècles de recul, on se rend compte que ce sont les types de peintures qui sont vraiment les mieux conservées et qui sont dans un état vraiment exceptionnel.
C'est comme dans tout, c'est les techniques de grand-mère, ils sont toujours les meilleurs. Et quelle est la place de la science dans tout ça? Parce que tu as parlé de matière scientifique en école. Là, je pressens que tu étudies plein de matériaux différents. Voilà, quelle est la place de la science dans ton métier?
Alors, je ne les étudie pas moi en particulier. Je me renseigne auprès de chercheurs et de scientifiques qui ont vraiment cette capacité d'étudier les matériaux sérieusement et pas que. En fait, dans le métier de conservateur et restaurateur, je pense qu'il faut distinguer deux types de personnalité ou de compétences. Il y a le restaurateur exécutant qui va manuellement, techniquement restaurer les œuvres d'art. Et puis, à côté de ça, il y a le conservateur-restaurateur-chercheur qui, lui, travaille dans un laboratoire, que ce soit un laboratoire pour un musée public ou un laboratoire privé, et qui va se pencher sur des problématiques scientifiques liées à un matériau, à un artiste, à une œuvre en particulier, ou bien à une technique de restauration. Donc, de moi-même, j'analyse pas scientifiquement les matériaux, mais je me renseigne auprès de ces laboratoires qui publient régulièrement leurs recherches. Alors, en France, assez peu, à l'étranger surtout.
Tu te sers de leurs études,
c'est ça.
Mais il faut quand même pouvoir les décrypter.
Oui, ça c'est quelque chose qu'on apprend pendant des études de conservation et restauration. On est même aussi amené à proposer un sujet de recherche technico-scientifique, de l'exécuter et d'analyser les résultats de cette recherche pour valider le brevet d'étude. C'est une grosse partie du mémoire. Non, techniquement, théoriquement, je saurais faire, mais pareil, je n'ai pas les facultés scientifiques pour. Et puis, ça demande énormément de temps, ça demande énormément de temps, et en plus du temps qui ne peut pas être facturé, parce que je ne vais pas expliquer en client que... j'ai ce problème-là sur son œuvre, du coup, je vais devoir analyser ceci, analyser cela. Pour ça, je vais devoir créer 6 000 échantillons et puis les observer avec tel outil ou devoir faire des mesures de brillance et de couleur. Voilà, et puis je vais passer 6 mois dessus et puis je vais les facturer. Il va me dire. Pour être poli, il va me dire merci. Mais donc c'est pour ça aussi que c'est deux choses très différentes.
Mais c'est super intéressant parce que ça permet de voir tous les métiers entre guillemets de l'ombre de l'art. Parce que quand on pense le monde de l'art, on pense galerie, on pense agent, on pense artiste, évidemment, ou personnel des musées. Mais en fait, il y a des scientifiques, enfin, moi je trouve ça fascinant, qui travaillent à étudier comment restaurer au mieux les œuvres d'art, qui étudient les matériaux. Il y a des personnes comme toi qui sont peut-être intervenues sur des tableaux sans même qu'on s'en rende compte, parce que je pense que c'est ça aussi l'objectif, c'est qu'on ne voit pas qu'il y a eu restauration. Donc je trouve que ça illustre bien tout ce panel de métiers.
Et pour revenir à ta question de ne restons pas d'art traditionnel, mais c'est un art actuel, disons, art contemporain. En fait, au-delà des matériaux, ce qui sont une problématique, on va dire une problématique technique, il y a aussi quelque chose de très important par rapport à eux, mais qui est plutôt là une question peut-être éthique. C'est-à-dire que jusque dans les années 10-20, en fait, les matériaux dans l'œuvre servaient à servir une image. En fait, l'image d'une œuvre, d'une peinture, est possible grâce au matériau. Et moi, je dirais à partir des années 10-20, avec par exemple les emails de Michel Poulancel Duchamp, en fin de compte, le matériau ne sert plus de support à l'image, le matériau va servir d'essence même à l'œuvre et va être parfois même le sujet de l'œuvre. Donc là aussi, ça pose des questions particulières. Puisque, par exemple, si j'agis sur un matériau qui fait partie intégrante de l'œuvre et du sujet de l'œuvre, est-ce que je ne vais pas altérer le sujet même de l'œuvre ? Donc, c'est des questions qui peuvent être compliquées, particulières, mais peut-être c'est mieux si je donne un exemple concret avec, par exemple, le collectif Présence Confinette. Je pense que c'est assez comme ça. C'est pas énormément connu. Puis ils ont fait surtout des assemblages d'objets assez loufoques et ils utilisaient surtout des objets trouvés par exemple dans la poubelle. Et j'ai ce souvenir d'une œuvre qui a été faite avec, par exemple, des tableaux trouvés dans la rue qui étaient percés, déchirés, etc., etc. Là, dans ce cas-là, dans une peinture traditionnelle, on aurait dit, ces tableaux, on va les entoiler, on va reprendre les déchirures et puis on va les retoucher. D'accord, mais là, dans ce cas-là, si on veut ça, si on prend ce tableau, tu vois, dans une poubelle et qu'on l'entoile, on reprend les cheveux, on le touche, en fin de compte, l'œuvre n'aura plus de sens.
D'où aussi le fait de bien connaître l'histoire des tableaux. Écoute, on va passer aux questions signature pour terminer cette interview. Première question, c'est selon toi, de quoi le monde de l'art a-t-il besoin ?
Alors, j'ai deux réponses qui sont contradictoires. Une réponse plutôt professionnelle et une assez plus personnelle. Alors, je dirais que le monde de l'art aurait besoin de plus de précautions et de moins de sérieux.
C'est déjà ressorti, le fait de moins se prendre au sérieux.
Plus de précautions dans le sens où faut quand même prendre soin des objets d'art, même si ça fait partie de la vie, même si ça peut être un objet commun, il faut vraiment prendre ses dispositions, que ce soit pour un collectionneur ou que ce soit pour un professionnel, une galerie, etc., pour conserver ses œuvres, parce que si on a une maladresse ou si on fait une erreur dans la manière de conserver l'œuvre, ça peut être catastrophique. Ça, c'est la conscience professionnelle qui parle. Et moins de sérieux, puisque je peux en justifier
Je pense que chacun comprend implicitement ce que tu veux dire.
Oui. Enfin, moins sérieuse dans le sens, se prendre.
Oui, c'est ça, ça. Sinon, ce serait contradictoire avec la première partie de ta réponse, mais je pense qu'on voit tous très bien ce que tu veux dire. Deuxième question, quel est ton meilleur souvenir en rapport avec le milieu artistique ?
C'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup.
Tant mieux, tant mieux.
Je sais pas si c'est mon meilleur souvenir, mais je dirais que c'est ma grande surprise. C'est ma rencontre avec Beauty Shelley, ou en tout cas plutôt ses œuvres, aux galeries des Offices de Florence, et particulièrement le printemps. Alors moi, jusque-là, quand est-ce que c'était ? C'était peut-être en 2007. Moi, jusque-là, jusqu'à ce moment-là, Beauty Shelley, bon, je me souviens, c'est joli, c'est bien peint, c'est mignon, mais bon, c'est pas ma tasse de thé. Et quand je me suis retrouvée face au printemps, j'ai trouvé ça, d'une beauté, mais tellement rare, et qui pourtant contrastait avec ce que ma vision de l'artiste et de sa production. Et j'ai trouvé ça tellement beau, ça m'a beaucoup émue, et je me suis dit, moi qui ne crois pas en aucun Dieu, je me suis dit, il y a forcément quelque chose de sacré là-dedans, que ça soit aussi merveilleux.
Ça donne presque des frissons. je rêverais d'aller voir ce tableau, parce que c'est vrai que c'est tous ces chefs-d'œuvre qu'on connaît que dans les livres. Et il y a quelque chose en plus qui se passe, comme tu le dis, quand on le voit en vrai. Donc, avec plaisir pour aller voir ce tableau. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu peux nous parler d'un objet ou d'une œuvre d'art qui t'accompagne au quotidien ?
Alors, je l'ai préparé, il y a un peu de chance, ça me suit partout. C'est une petite loupe qui se... Enfin, c'est un objectif, en fait. C'est un objectif macro qui se met sur le téléphone ou tablette et qui permet en fait de voir tous les petits détails d'une œuvre d'art. Et c'est quelque chose qui, à chaque fois, me fascine. Chaque fois que je vais examiner une œuvre d'art, c'est toujours ce moment que je préfère parce que ça relève énormément de choses, que ce soit sur la technique de l'artiste, les matériaux, les altérations. C'est vraiment une immersion en profondeur dans l'œuvre. Et donc, j'ai souvent ça avec moi. Et quand je me sens, je me suis toujours...
Génial, j'ai envie d'essayer. Non, je vais voir si je trouve un petit truc à regarder. Merci beaucoup Margot d'avoir répondu à mes questions.
Merci à toi Elis de m'avoir accueilli dans ton podcast.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez venir me le dire sur le compte Instagram du podcast ou en envoyant un message directement à Margot. J'en profite pour vous adresser une annonce de sa part, puisque Margot est à la recherche d'un ou d'une conservateur-restaurateur avec un intérêt particulier pour l'art contemporain et son marché, afin de contribuer au développement des services proposés par son entreprise. Pour en savoir davantage sur cette opportunité, vous pouvez la contacter directement par mail ou via les réseaux sociaux. Les coordonnées sont tous accessibles sur son site bossardconservation.com. Je vous mets le lien en note du podcast. Un grand merci à Kylian Goujon pour le mixage audio et la composition du générique. Merci également à La Perle, partenaire presse du podcast. N'hésitez surtout pas à partager ce podcast à vos amis qui souhaiteraient en savoir plus sur le monde de l'art ou à vos collègues et connaissances qui évoluent ou souhaiteraient évoluer dans ce milieu. Chaque mois, je publie une interview avec un invité inspirant et un épisode plus personnel en duo avec Axel, mon associé dans les art dating. Je vous dis donc à très vite pour un prochain épisode.